Jive.
Alors, merci beaucoup d'être tous là, en si grand nombre, pour cette conférence de Mathieu Courset, anarchiste et socialiste, vous voyez le même titre que moi, au Québec avant la Première Guerre mondiale. La soirée est organisée par le collectif Subversitis, un collectif anticapitaliste qui actuellement réunit surtout là, des conférences ici et à la Page Noire en Basile sur la rue du Roi. D'ailleurs, il y a une conférence dans deux semaines sur l'ubérisation du monde là, et Airbnb. Je vous invite donc, pas mardi prochain, mais l'autre mardi, à la Page Noire. Sinon, c'est ça, ça se fait dans le contexte là, des pensées sauvages. J'ai eu différentes conférences, dont deux conférences d'anarchisme, anarchisme 2.0, anarchisme contemporain, il y a déjà trois semaines. Il y a une conférence de Francis Dupilléry ici en janvier. Et là, c'est une de nos dernières conférences. Donc, merci Mathieu. Il va y avoir une pause. La conférence dure peut-être 45 minutes, une heure. Et durant la pause, on va faire des minutes de chapeau qui sont pour financer, entre autres, les activités du collectif local de l'IWW. Alors, bonne nouvelle.
Merci Olivier. Et merci à tout le monde d'être venu ce soir. Ce que Olivier ne vous a pas dit, c'est qu'en ce moment, je suis étudiant à l'Université Laval. Puis, mine de rien, c'est... C'est quand même une chance pour moi de pouvoir m'adresser à un groupe comme vous ce soir sur, disons, mes passions secrètes. Parce que, mine de rien, on travaille souvent en vase clos, puis on est comme dans une bulle, et puis c'est rare qu'on a la chance de partager avec d'autres, puis d'échanger surtout avec d'autres personnes sur des sujets qui nous tiennent à cœur, comme c'est le cas ce soir. Je vais vous proposer d'aller faire un retour dans le temps sur une période, dans un milieu en fait, un milieu politique a été complètement oublié, dont on s'est assez peu soucié et qui malgré tout peut nous enseigner un certain nombre de choses sur notre présent aujourd'hui, surtout si vous êtes impliqué dans des mouvements progressistes ou des mouvements de gauche. Il y a quand même quelques petites choses à travers tout ça qui pourraient alimenter une discussion qu'on aura après la pause dont parlait Olivier il y a quelques instants. Donc, ce dont je vais vous parler ce soir, ce n'est pas mon sujet de thèse de doctorat. C'est ce qu'on appelle un peu un projet de côté, des notes que j'ai prises au fil du temps et qui un jour peut-être feront l'objet de... des articles ou quelque chose, mais pour l'instant, c'est vraiment sous forme de conférence. Et puis, c'est du matériel qui est souvent inédit, des choses qui n'ont pas été encore décrites ou écrites tout court. Donc, d'où l'intérêt pour moi de pouvoir le partager ce soir avec vous. Donc, anarchisme et socialisme avant la Première Guerre mondiale. Longtemps, on a pensé qu'avant la Révolution tranquille au Québec, disons, les mouvements de gauche avaient été pour le moins inactifs ou peu significatifs. Il y a même un de nos plus célèbres sociologues qui s'appelle Marcel Rioux, qui écrivait dans la fin des années 60, là, peu après la Révolution tranquille, que la période qui suivait la Révolution, la révolte des Patriotes, la défaite des Patriotes, jusqu'au début des années 60, avait été un long hiver qui avait duré plus d'un siècle. Bon, bien, il y a eu quelques printemps quand même à travers ce long siècle-là. Et je dirais que l'âge d'or de la pensée anarchiste et socialiste au Québec, la période où vraiment, là, on a vu se cristalliser ces courants-là de façon peut-être les plus convaincantes et les plus ancrées dans la réalité des gens. Le début du 20e siècle, finalement, est vraiment une période très, très importante, très névralgique pour comprendre tout ça. Et... à bien des égards, c'est un peu étonnant qu'elle n'ait pas été plus étudiée qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. Il y a bien quelques historiens qui se sont penchés là-dessus. Hein. Je pourrais leur rendre hommage ce soir, mais si vous avez envie d'aller un peu plus loin là, dans vos réflexions, ça me fera plaisir de partager avec vous quelques références bibliographiques. Mais en gros, c'est quand même depuis les années 80 là, qu'on voit de plus en plus de travaux d'études qui portent sur l'avant Première Guerre mondiale qui sortent. Et c'est souvent des études très fragmentaires sur des petits mouvements qui ont capté l'intérêt des historiens. Mais il n'y a pas encore de synthèse vraiment historique sur cette période-là qui a été faite. Étrangement ou paradoxalement, c'est vraiment des historiens au Canada anglais, même aux États-Unis, qui ont commencé à s'intéresser à ce qui se passait à Montréal, et surtout à Montréal, parce qu'il va être surtout question de Montréal ce soir. Et ils l'ont fait dans une perspective historique qui s'appelle la perspective transnationale. Ils essaient de voir quels ont été les réseaux, quels ont été les liens qui ont pu s'établir en sortant d'un cadre national ou régional pour faire éclater ça, puis regarder plutôt quels ont été les échanges qu'il y a pu y avoir entre des gens des États-Unis avec, par exemple, au Canada ou en Europe, ou au contraire, des gens d'Europe vers l'Amérique du Nord. Et on peut comme ça décloisonner finalement l'histoire et refaire, retrouver finalement de nouvelles connexions qui nous apprennent beaucoup de choses sur les réseaux qui étaient à l'œuvre. Et c'est un peu de cette perspective-là dont je me suis inspiré pour vous parler ce soir. Donc, au niveau des... Au niveau des sources dont... le plan d'abord, de quoi je vais parler ce soir? Quelques mots sur la démarche. On va parler beaucoup d'expérience ouvrière à Montréal au début du 20e siècle, au début, juste pour bien situer, se replonger dans le contexte de l'époque. Ensuite, on va essayer de situer un peu politiquement et linguistiquement, vous allez voir, c'est une question très importante, le militantisme socialiste et anarchiste. Ensuite, on va définir un peu les contours d'une contre-société. Certains pourraient même parler d'une communauté de militants, tellement les liens de sociabilité, mais aussi les liens politiques étaient forts. Il y avait une convergence au niveau des pratiques, pas toujours au niveau des idées, on va le voir, mais finalement, un milieu assez pragmatique qui faisait en sorte qu'on devait s'entraider les uns les autres. On va parler un peu de ce qui s'est fait à l'extérieur de Montréal, puis je vais peut-être passer 2 minutes sur la ville de Québec. Et on va essayer, en conclusion, de voir ensemble si on était face à une culture politique commune. Parce qu'on va voir entre ce qui précède la Première Guerre mondiale et l'après-Première Guerre mondiale, disons, après la Révolution russe même, on parle de 2 systèmes de sens complètement différents. Et on va voir que ce qu'on avait peut-être ici, effectivement, ça ressemblait à une culture politique qui était partagée à la fois par des gens qui pouvaient avoir des divergences au niveau de leurs idées. Comment on s'attaque à un sujet comme celui-là quand on est historien ou historienne? Ça nous prend des sources, et des sources primaires. Donc vraiment, là, aller dans les archives pour puiser la nourriture dont on va finalement se nourrir pour faire un travail comme celui-là. L'une des sources que j'ai utilisées, c'est un journal qui s'appelait le Cotton's Weekly, un drôle de nom, mais en fait, c'est que le fondateur du journal s'appelait Ulrich Cotton. C'était un avocat qui était établi à Cowansville, dans les cantons de l'Est, et qui a racheté comme ça un petit hebdomadaire local et l'a transformé en un hebdomadaire socialiste qui était diffusé à travers le Canada. Et en 1911, d'après les chiffres qu'il donne dans son journal, environ 10 000 exemplaires du Cotton's Weekly étaient diffusés à travers le Canada, dont environ 1 000 au Québec, 800 à Montréal et à peu près 200 à l'extérieur de la métropole. Avec un journal comme celui-là, on a accès finalement souvent à la vie interne des mouvements, des fois aux désaccords qu'il peut y avoir à l'intérieur des groupes, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller un peu plus loin. Donc, je suis allé du côté de la presse quotidienne, du côté des souvenirs ou de la correspondance qui peut être échangée. Salut! De la correspondance entre militants, des rapports policiers, bien qu'à cette époque-là, c'était un peu moins. La police ne surveillait pas encore beaucoup les groupes socialistes. Ça va venir après la Révolution russe davantage. Et aussi ce qu'en disent leurs ennemis, donc essentiellement les milieux catholiques, qui vont rapidement se rendre compte que ce qu'ils avaient devant eux pouvait. À terme, les confronter dans leur domination, un peu plus pratique, dans les milieux ouvriers. Si on se replace à Montréal au début du 20e siècle, de quoi a l'air la ville? D'abord, c'est vraiment une métropole nord-américaine, une grande ville nord-américaine qui est bien intégrée dans l'économie du continent. C'est une ville qui se développe à un rythme effréné. Au plan économique, bien sûr, mais aussi au plan démographique. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais en 1901, la population de la ville était de 325 000 habitants, plus à peu près 35 000 pour les banlieues les plus proches. Mais les banlieues, on ne parle pas du 450, là. On parle plutôt de l'approche de, aujourd'hui, c'est l'île de Montréal, l'ancienne banlieue de Montréal. Mais donc, 20 ans plus tard, regardez la différence. La population a presque doublé. Et les banlieues ont vraiment explosé. Souvent des banlieues ouvrières, d'ailleurs, où il y a énormément de personnes qui travaillent dans les manufactures, dans l'industrie lourde. Donc, gros développement industriel, consolidation du système bancaire. Montréal a vraiment le vent dans les voiles. Sauf que, le capitalisme étant ce qu'il est, les cycles économiques sont très courts. Donc, on passe de périodes de croissance rapide à des périodes de crise. on reprend la croissance, puis on retombe en crise. Donc, pendant la période que je vais couvrir ce soir, surtout la période entre 1906 et 1914, il y a quand même deux crises économiques majeures au cours de ce, finalement, à peine même pas 10 ans, là, finalement, de deux crises économiques qui vont vraiment fragiliser les conditions de vie des classes ouvrières. Parlant de ces conditions de vie-là, qu'est-ce qui caractérise aussi la vie dans les quartiers ouvriers de Montréal à l'époque? Quelqu'un a une idée? Quelque chose qui est vraiment frappant.
L'insalubrité.
Oui, la mortalité infantile qui en découle aussi. On dit que Montréal, finalement, est la ville en Amérique du Nord où les enfants tombent comme des mouches. La tuberculose fait des ravages. Les familles sont assez nombreuses encore à l'époque. Et les conditions d'hygiène sont telles que énormément d'enfants meurent avant l'âge d'un an. C'est aussi un milieu où beaucoup de l'immigration est aussi très très forte. Ça explique aussi pourquoi la population grimpe comme ça. Il y avait à peine 7000 Juifs à Montréal en 1901. Ben 20 ans plus tard, ils sont à peu près de 50 000. Donc la ville aussi se nourrit et profite de l'arrivée massive d'immigrantes et d'immigrants qui vont jouer un rôle très très important dans ce dont je vais vous parler dans quelques instants. Pour revenir à la précarité des conditions de vie, ce qui fait que les gens ont finalement des salaires qui sont souvent très très bas, qui ne leur permettent pas de subvenir à leurs besoins. Le corollaire de ça, c'est que les enfants partent très tôt sur le marché du travail. Ils ne restent pas très longtemps à l'école. On pense qu'il y a à peu près les trois quarts qui ont juste eu accès à une éducation primaire. Donc, à peine le quart des enfants vont finalement compléter un cours secondaire. Donc, une arrivée très, très tôt sur le marché du travail, les fillettes en particulier vont être mises à contribution dans l'économie domestique. Parce qu'on pense souvent que les femmes ne sont pas beaucoup sur le marché du travail à l'époque, mais il y en a quand même 25% d'entre elles qui travaillent. Et évidemment, qui subissent une double exploitation. D'abord, quand elles sont salariées, elles gagnent à peine 50% du salaire des hommes. Et dans la vie quotidienne, le code civil fait en sorte qu'elles sont considérées comme des mineurs. Donc, le code civil encadre juridiquement leur soumission dans la sphère privée comme dans la sphère publique. Face à des conditions comme ça, face à des conditions comme celle-là, c'est pas étonnant que des courants comme courant socialiste ou anarchiste puissent se développer. Parce qu'après tout, c'est quand même des philosophies politiques qui parlent aux exploités, qui cherchent finalement à améliorer nos conditions de vie maintenant, mais aussi évidemment penser à transformer radicalement la société sur des bases anticapitalistes et évidemment égalitaires, libertaires dans bien des cas. Donc, je voulais vous lire quelques extraits d'une lettre qui a été écrite en 1912 par quelqu'un que l'histoire n'a pas retenu, un de ses illustres oubliés, un gars qui s'appelait Mathias N. Portelance, qui était menuisier. Alors, c'est une lettre ouverte qui était publiée dans le journal Le Pays le 10 février 1912 et qui s'appelle « Pourquoi je suis socialiste », qui d'ailleurs a été reprise en tract, ils ont changé le titre là. C'est devenu « Pourquoi suis-je socialiste ?» avec un point d'interrogation. Mais lui, en tout cas, il l'affirmait plus clairement. C'est quelques extraits, là, je ne vous lirai pas tout ça, n'ayez pas peur. « Je suis père de 9 enfants. Je gagne péniblement 10 piastres par semaine. J'habite le Faubourg Québec. » Ça, c'est dans le nord du Vieux-Montréal aujourd'hui. « J'habite là, dans une maison étroite, triste, froide, où nous ne pouvons pas pratiquer les lois de l'hygiène, où nous grelottons souvent dans une atmosphère malsaine. » Nous sommes trop dans ce petit réduit. Pourquoi suis-je socialiste? Je vais vous le dire. Parce que la société actuelle ne m'a pas donné l'instruction. Parce qu'elle reste indifférente à mes misères. Parce qu'elle me laisse crever de privation dans un taudis, moi et les miens. Parce qu'elle n'a d'égard et de cœur que pour les puissants, les riches, les privilégiés. Je suis socialiste parce que je vois trop d'opulence à côté de trop de pauvreté. Trop de luxe à côté de trop de gêne. On nous enseigne la résignation, la soumission, l'inertie. Nous peinons toute notre vie. Nous élevons de nombreuses familles. Nous n'avons que du pain noir et nous finissons par aller au cimetière, sans avoir jamais eu un rayon de soleil, un bon repas, un bon lit, une minute de joie. Je suis socialiste parce que je me sais exploiter. Je suis socialiste parce que je suis fatigué de souffrir pour fournir des jouissances aux autres. Je suis socialiste parce que je veux ma part d'air, de soleil, de liberté, d'instruction. Je suis socialiste parce que je sens en moi des révoltes contre la mentalité des gens qui me gouvernent, soit à l'hôtel de ville, soit au Parlement. Je suis socialiste et tous les ouvriers devraient être socialistes, s'ils avaient la force de penser. Le socialisme, c'est la mise en faisceau des faiblesses prolétaires pour en faire une force. C'est l'union des métiers, l'organisation des travailleurs dans le but de régler l'effort de tous vers plus de bien-être, vers plus de liberté et d'aisance, vers un meilleur avenir pour leur famille. Je veux de l'instruction pour mes enfants. Je veux qu'ils n'aient pas à endurer tout ce que j'ai souffert. Je veux qu'ils puissent lire des livres afin qu'ils se servent de leur cerveau. Je veux plus d'humanité dans la vie. Je veux que les ouvriers s'unissent, s'entendent et s'affirment pour se faire respecter. Et là, c'est le punch. Je suis un catholique pratiquant. Mais je ne connais pas de dogme qui m'oblige à crever de misère et à endurer sans réclamer. Est-ce que j'ai besoin de vous dire c'est quoi le socialisme? Non, mais ça, c'est fait,
l'a fait pour moi. OK. Oui. Ah, il me manque une diapo. Ah, voilà.
OK. C'est sûr que de mettre socialisme et anarchisme dans une même conférence puis dire que ces gens-là avaient des atomes crochus, ça pourrait paraître à certains comme étant un peu anachronique ou bizarre, parce qu'après tout, on connaît plutôt ces deux grandes philosophies-là comme étant des frères ennemis, mais ils font partie quand même d'une même famille qui est le socialisme. Donc, il y a à Montréal, au début du 20e siècle, plusieurs courants qu'on retrouve à travers une multitude de groupes, d'acronymes, de soupes à l'alphabet militante, dont je vais vous faire grâce ce soir, je ne vous parlerai pas de tout ça, mais juste pour vous situer, il y a quand même quelques-uns de ces courants-là. Donc, on va aller de la droite vers la gauche, les travaillistes. Ceux-là sont plutôt réformistes. Donc, c'est des gens qui se voient plutôt comme des... une espèce de tampon entre les capitalistes, le capitalisme et le socialisme. Au Québec, ils sont surtout présents dans les milieux ouvriers à travers des organisations syndicales. Ils vont chercher à faire élire, par exemple, des candidats ouvriers aux élections. Ils vont chercher à obtenir des grandes réformes qui, aujourd'hui, en fait, ressembleraient beaucoup au programme de la Révolution tranquille, ce qu'on a réussi à obtenir via des grandes réformes institutionnelles lors des années 60. Donc, tout ce qui touche, par exemple, le droit à l'éducation, la question de la santé, de l'assurance l'assurance chômage. Donc, de ces grandes réformes qui ont fait, en fait, beaucoup de bien, évidemment, à tout un chacun, mais qui n'ont pas, évidemment, renversé les structures du système capitaliste. Ce n'était d'ailleurs pas leur intention ni leur objectif. À Montréal, ils ont un parti, le Parti ouvrier, qui va connaître plusieurs vies. Mais en gros, leur grand fait d'armes à l'époque, c'est d'avoir réussi à faire élire l'un des leurs aux élections dans un comté très ouvrier, celui de Maisonneuve, en 1906. Souvent, ils vont tenter de s'allier avec la gauche du Parti libéral. Le Parti libéral qu'on connaît, le Parti libéral du Québec, évidemment une très très longue tradition, a eu des périodes plus radicales, ça fait bizarre à dire, là, mais au 19e siècle. Et au 20e siècle, il reste encore de cet esprit-là contestataire au sein du Parti libéral, qui se retrouve souvent dans des journaux d'opposition, de combat. Du côté de la communauté juive, il y a un groupe qui s'appelle le Poalit Zion, qui est en fait un groupe de travaillistes sionistes. Donc, contrairement à d'autres groupes de la communauté juive, eux sont vraiment mis en retrait par les anarchistes et les socialistes, qui les considèrent comme étant des nationalistes. Donc, en général, les socialistes et les anarchistes sont plutôt très antinationalistes, alors que ce groupe-là, qui va gagner en importance à Montréal, surtout après la Première Guerre mondiale, lui, en fait, défend la création de l'État d'Israël. Très, très tôt. Du côté des socialistes, ben encore une fois, plein de groupes différents. Il y a des distinctions idéologiques à faire. Là. Si vous voulez qu'on les fasse, on les fera plutôt dans la discussion ou à la bière. Un groupe d'abord, le premier qui a peut-être mis son pied à Montréal, c'est le Socialist Labour Party en 1894. Le groupe va d'ailleurs diffuser un manifeste à l'occasion de la fête du travail, le premier lundi de septembre 1894. Du côté de la communauté juive, on a un groupe qui s'appelle le Yiddish Arbeit Bund, qui est vraiment un groupe qui a lutté, fait de la lutte armée dans les limites de l'Empire tsariste. Et donc, beaucoup de militants, après, sont partis en exil vers l'Angleterre et l'Amérique du Nord, après l'échec de la Révolution de 1905. Donc, très tôt, leurs premiers réseaux vont se mettre en place à Montréal au tout début du 20e siècle, en 1903. On a aussi des Italiens et des Italiennes qui sont membres de la Fédération socialiste italienne de l'Amérique du Nord, qui eux aussi arrivent à Montréal en assez grand nombre au début du 20e siècle. Il y a beaucoup de racisme envers les Italiens déjà à l'époque. On les considère comme des oiseaux de passage. Donc finalement, des gens qui vont venir travailler un peu ici, mais qui vont rapidement repartir ailleurs. On ne pense pas qu'ils vont s'établir durablement à Montréal. Il y a beaucoup de discrimination à leur égard. Et cette fédération-là, contre des militants à Montréal, va aussi lutter dans la communauté contre l'influence déjà de réseaux proto-mafieux, en fait, des gens qui s'inspirent de la situation, voient qu'il y a de la précarité dans la communauté italienne et tentent de tirer les ficelles. Donc, ils sont un contrepoids à la fois contre ces réseaux-là, puis aussi contre l'Église catholique qui cherche à les capter dans ces églises. Finalement, les deux derniers groupes, le Parti socialiste du Canada, qui arrive à Montréal, qui crée une section à Montréal en 1906, et le Parti social-démocrate, qui, contrairement à ce que son nom laisse entendre, n'est pas genre le NPD d'aujourd'hui, là, mais bien un groupe qui est marxiste, parce que les sociaux-démocrates, avant la Première Guerre mondiale, ce sont tous et toutes des marxistes. Alors, ce sont deux organisations marxistes. Certains diront que celle-ci est beaucoup plus dogmatique que celle-là. Si ça vous tente d'en discuter, on le fera plus tard. Mais ce n'était pas mon propos ce soir. Finalement, les anarchistes. Eux aussi sont plutôt nombreux et nombreuses. D'abord, dans la communauté juive, il y a des collectifs comme Arbeiterfreund, qui veut dire l'ami du travailleur, Freiheit, qui veut dire tout simplement liberté, en yiddish dans les deux cas, qui est la langue qui est parlée par les juifs d'Europe de l'Est, qui arrivent très nombreux donc au début du 20e siècle, qui sont attirés par de l'emploi dans l'industrie manufacturière au niveau du vêtement et du textile, qui vont mener des luttes très importantes et dont on va parler tout à l'heure. Chez les francophones, on a, à défaut de mieux l'appeler, le groupe anarchiste de Montréal, qui va publier en 1905, c'est un peu sa première manifestation publique, une lettre ouverte qui va être publiée dans le journal La Presse, qui dénonce la peine de mort. La peine de mort d'un ouvrier italien qu'on accuse d'un meurtre. Alors, c'est à l'époque, on publie la lettre dans la presse, puis on les tourne en ridicule. Voyons, on va être contre la peine de mort. Quelle idée. Mais finalement, c'est un peu la première manifestation publique de ces anarchistes de langue française. Il va y en avoir de nombreux autres. On va le voir bientôt. Et finalement, un autre courant, qui partage, disons, avec certains travaillistes, une implication, une inscription dans le syndicalisme, mais qui, contrairement à eux, le font pour, en fait, renverser le système capitaliste et établir, finalement, un espèce de socialisme autogestionnaire un peu hybride. Il s'agit des Industrial Workers of the World, IWW, donc, qui existe toujours aujourd'hui, d'ailleurs, et dont la collecte pour le chapeau sera faite tout à l'heure. Merci, Olivier. Donc, les premiers groupes de l'IWW vont se constituer à Montréal en 1905. Et certains sont membres aussi d'organisations politiques, certains sont membres de groupes anarchistes. Donc, Industrial Workers of the World, c'est un peu un grand chapiteau pour toutes sortes de militants impliqués dans les luttes ouvrières. C'est sûr qu'on ne peut pas parler de tout ça sans évoquer aussi la présence de d'autres communautés. On a parlé des socialistes de langue française, ici, là, des juifs, ici, des italiens, là, même chose de ce côté-ci. Mais il y a d'autres groupes d'immigrants qui arrivent à Montréal, qui sont là depuis déjà, dans certains cas, plusieurs années. On peut penser aux Allemands, qui vont, dont une cinquantaine de socialistes allemands vont créer en 1914 une section du Parti social-démocrate. Des Russes, qui ont une librairie sur le boulevard Saint-Laurent, des anarchistes russes, et qui ont un journal qui s'appelle Novy Mir, des Lettons, qui en 1909 vont créer, une vingtaine d'entre eux, une branche du Parti socialiste du Canada. Donc, il y a une des clés pour comprendre finalement le paysage, faire un portrait d'ensemble de ce milieu-là au début du 20e siècle. C'est d'une part une certaine fragmentation au niveau des groupes, hein, j'aurais pu en mettre d'autres, là, mais la page est pleine. Une fragmentation aussi au plan linguistique, souvent les militants vont se réunir entre eux et entre elles sur cette base-là, donc une appartenance ethno-linguistique, mais malgré tout, ils vont souvent se regrouper à l'intérieur de ces groupes-là. Donc, c'est comme si, à l'intérieur du Parti socialiste du Canada, tu avais un groupe de langue française, tu avais des anglophones qui ont un groupe séparé, tu as des Russes, tu as des Ukrainiens. Donc, finalement, ils se retrouvent dans des groupes, mais ils forment des collectifs séparés, si on veut, sur ces bases-là. Mais on va voir quand même, malgré cette fragmentation-là apparente, on pourrait se dire, chacun fait son petit truc dans son coin, ben, il y a quand même une contre-société qui, des lieux, des pratiques, qui arrivent à réunir tout ce monde-là ensemble à l'occasion. Pour ça, ben, il y a des gens qui font un peu long. Là, il y a des moustachus, là, mais tantôt, il y aura d'autres personnes que des hommes à l'écran. Mais il y a une partie qui est consacrée plus spécifiquement au militantisme des femmes un peu plus tard. Il y a quand même trois militants qui vont comme ça créer des liens entre les différentes communautés. Le premier ici, Albert Saint-Martin, qui est probablement le plus connu des trois. Lui est un Canadien français, fils d'épicier, sténographe. Donc, c'est celui qui prend finalement la prise de notes lors des procès au palais de justice. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a une position assez enviable là, dans la société montréalaise. Mais c'est aussi l'un de ceux qui va créer le plus de ponts entre les groupes, les différents groupes qu'on a vus un peu plus tôt. Lui-même est membre du Parti socialiste du Canada, de la section canadienne-française, de la branche française du parti. Mais il parle très, très bien anglais. Et c'est souvent lui qu'on va inviter quand il y a des grands rassemblements où on a besoin d'orateurs francophones, par exemple à l'occasion d'une grève dans l'industrie du vêtement. C'est lui qu'on va aller chercher pour parler aux ouvriers de langue française. Même chose le 1er mai. On va y revenir tantôt, mais on a besoin d'orateurs qui peuvent se débrouiller dans différentes langues. Et c'est un de ceux qui va réussir à créer des liens entre les francophones et les anglophones. Celui-ci, Richard Kerrigan, lui aussi est bilingue. Lui est irlandais, il est né à Montréal. C'est un vieux de la vieille des luttes ouvrières. Déjà en 1906, là, la photo a été prise un peu plus tard, mais il avait fait partie 20 ans plus tôt d'une des sections des Chevaliers du Travail à Montréal. Donc, une des premières organisations syndicales alors interdites au Canada. Kerrigan, lui, est en contact avec des gens de la communauté juive à travers un groupe qui s'appelait le groupe de l'aide mutuelle, qui était comme un groupe de discussion qui se réunissait de façon informelle. Donc, il connaissait bien le troisième larron au bout, là, Erich Hirschman, qui lui était un libraire et aussi un des fondateurs de la première bibliothèque publique juive à Montréal, qui était un anarchiste. Alors que lui, Kerrigan, était un militant à l'époque de l'IWW, donc un syndicaliste révolutionnaire. Donc, on a finalement, dans ce cas-ci, trois personnes qui, mine de rien, se croisent et arrivent, témoignent en fait de ces liens-là croisés qui existent entre les différents groupes. Mais au-delà des individus, il y a aussi des lieux, des espaces communs qui servent de lieux de rencontre pour les gens au quotidien. J'en ai mis deux ici. D'abord, le temple du travail. Alors, oui, l'expression est un peu rigolote là, aujourd'hui, là, un peu drôle, mais c'est une ancienne église. C'est une ancienne église luthérienne allemande qu'un des maçons montréalais, donc membre d'un syndicat de maçons, ont complètement rénové. Et qui va devenir, c'est sur la rue Saint-Dominique, donc vraiment pas très loin aujourd'hui de Berry-UQAM, pour vous situer. C'est là où il y a énormément de conférences qui vont se tenir. Oui, des réunions syndicales, la poutine habituelle, mais beaucoup, beaucoup de réunions de propagande ou d'éducation. Donc pendant, je dirais, 30-40 ans, là, c'est un lieu clé pour comprendre ce qui se passe à Montréal. C'est cette ancienne église convertie en temple du travail. Il y a d'autres salles, il y a tout un réseau de salles dans ce même secteur-là, des salles qui existent dans certains cas encore aujourd'hui, qui ont changé de fonction, évidemment. L'une d'entre elles, c'est celle de l'Union Saint-Joseph, qui est située sur la rue Sainte-Catherine. Mais il y en a d'autres. La salle Empire au coin Sainte-Catherine et Saint-Laurent en est une autre, où on trouve énormément de locaux de groupes politiques. On pourrait parler aussi du 330 Saint-Charles-Borromée, bon, une rue qui aujourd'hui, je crois, n'existe plus. Mais qui a été un lieu, un local du Parti socialiste du Canada et un lieu de rencontre pour les anarchistes. Comme quoi, finalement, dès qu'il y a des espaces comme ça qui sont disponibles et qui sont mis à la disposition des groupes, on peut comme ça les emprunter les uns les autres. Au niveau des autres lieux qu'on a de rencontre, tout à l'heure, je vous ai parlé le troisième au bout, là, Hirschman. Ben, voilà la devanture de sa librairie. On voit son nom. On voit qu'il vend des cigares et du tabac. Mais, contrairement à ce que peut laisser entendre, c'est aussi un lieu où toute la presse anarchiste et socialiste juive va transiter. Donc, à Montréal, les anarchistes et les socialistes juifs ne produisent pas leurs propres journaux, du moins pas vers 1906-1908. Au contraire, ils vont aller chercher des journaux, importer beaucoup de journaux de New York, la presse en yiddish. Donc, par exemple, le Freie Arbeiterstimme, qui est comme l'ami du travailleur libre ou l'ami libre du travailleur. En tout cas, je ne sais pas dans quel... Mais vous comprenez l'idée. Donc, un grand journal qui va être publié jusque dans les années 70, alors qu'il comptait encore quelques milliers de lecteurs dans les années 70. Mais à l'époque, le Freie Arbeiterstimme, c'est vraiment the big deal. C'est vraiment, quand tu es publié dans ce journal-là, tout le monde en Amérique du Nord sait ce que tu fais. Et c'est à travers des journaux comme ça que les groupes vont relayer ce qui se passe localement. Des poètes aussi vont être publiés dans ces journaux-là. Donc, Montréal devient, oui, un centre politique important pour la communauté juive, mais aussi un centre culturel de toute première importance. Les militants vont se retrouver dans des mobilisations communes. Je dirais que la plus emblématique, c'est sans aucun doute le 1er mai. Je ne referai pas l'histoire du 1er mai au Québec parce que je l'ai faite l'année passée ici même. Et je reconnais quelques visages. Je n'ai pas envie qu'ils s'en aillent. Donc, pour faire une histoire courte, le 1er mai, donc la journée internationale des travailleurs-travailleuses, c'est une tradition inventée par le mouvement ouvrier pour célébrer ses victoires, ses martyrs, ses défaites, puis aussi annoncer son programme politique. La première manifestation du 1er mai à Montréal a eu lieu en 1906. Tout le monde pensait que ce serait un échec, mais ce que les observateurs, y compris dans le milieu syndical, ne savaient pas, c'est qu'il y avait tous les groupes dont on a évoqué tout à l'heure la présence, s'organisaient depuis plusieurs mois, d'abord dans la communauté juive, mais dans différentes communautés, pour se mobiliser en prévision de cette première grande manifestation-là. À la dernière minute, les anarchistes et socialistes juifs ont eu peur de défiler seuls dans les rues de Montréal. Et c'est là que quelqu'un comme Kerrigan ou comme Saint-Martin sont venus donner des assurances aux ouvriers juifs de dire non, il va y avoir aussi des anglophones, des francophones qui vont être présents dans les rues de Montréal le 1er mai. Vous inquiétez pas, vous ne serez pas les boucs émissaires de la répression. Alors, ça a été un grand succès. La mémoire de cette mobilisation-là fait en sorte que le nombre de manifestants enfle d'année en année. Donc, la première année, on annonce quelques centaines de personnes. L'année suivante, ils étaient quelques milliers. Et quelques années plus tard, ils deviennent plusieurs milliers. Ça, c'est dans les souvenirs, vous savez, des militants. Alors, des fois, il faut se méfier de la mémoire. Mais on ne sait pas exactement combien ils étaient, là, évidemment. Mais ça varie entre quelques centaines et peut-être 2000 personnes. Mais ce qui a beaucoup frappé à l'époque les journaux, c'est que la manifestation s'ouvre avec un drapeau rouge. Déjà, de voir le drapeau rouge défiler dans les rues de Montréal pour la première fois, ça a comme créé une certaine controverse, un certain choc, surtout dans les milieux catholiques. Ce qui cause aussi un choc, c'est que devant la succursale montréalaise de l'Université Laval, parce qu'à l'époque, l'Université de Montréal n'existe pas, donc devant cette succursale-là, il y a un groupe de francophones qui vont crier « Abat la calotte, vive l'anarchie ». Et là, ça, c'est suite à des provocations d'étudiants de l'Université Laval qui les traitaient de canailles. Donc, on voit que là, tout d'un coup, oups, ah oui, on pensait que ça serait juste des Juifs qui seraient dans la rue. Non, c'est pas juste des Juifs. Il y a aussi, il y avait des Italiens aussi, il y avait des Russes, mais il y avait aussi des francophones. Et qui se sont publiquement, qui ont défié publiquement l'autorité de l'Église cette journée-là. C'est pas la première ni la dernière fois que ça se produit, mais disons que ça a créé une certaine commotion. Alors, que se produit-il les deux années suivantes, l'année suivante? Bien, l'Église, l'archevêque de Montréal monte en chaire. D'abord, évidemment, dit à ses ouailles de ne pas aller manifester le 1er mai, ça va de soi. Mais demande aussi à la ville de Montréal d'intervenir pour pas que se répètent les provocations du 1er mai précédent. Alors, la manifestation qui s'est déroulée très paisiblement le 1er mai 1906 se transforme en émeute policière le 1er mai 1907, alors que la police à cheval va charger sur la foule, arracher les drapeaux rouges et puis donc empêcher à toute fin pratique les manifestantes et manifestants de répéter l'opération. Mais finalement, les socialistes et anarchistes ont la tête dure et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir des activités organisées le 1er mai. Jusque dans les années 20, on organise des manifestations qui vont... Il y a un chassé-croisé avec la police. On amène les drapeaux rouges, la police saisit les drapeaux rouges. On en sort un autre là-bas, la police va saisir le drapeau. Ça devient finalement le 1er mai l'occasion de manifester aussi pour la liberté d'expression. Pas juste pour amener les grandes revendications ouvrières à l'avant-scène, pas juste pour parler du monde qu'on aspire à construire, pas juste pour parler de solidarité, mais aussi simplement pour avoir le droit de s'exprimer sur la place publique. À l'occasion des manifestations du 1er mai, ça se termine souvent par un grand rassemblement au Champ de Mars, devant l'Hôtel de Ville de Montréal, pour vous situer aujourd'hui, où 7, 8, 10 discours dans différentes langues vont être prononcés. Donc, on se réunit dans un même lieu, on marche ensemble, il y a une fanfare italienne qui ouvre le défilé, on a des bannières, on a des pancartes avec différents slogans dans différentes langues, on se réunit après dans un même lieu pour conclure la manifestation, mais finalement, au moment du rassemblement, on se refragmente, si on veut, dans les différents groupes, et là, il y a un orateur juif, là, il y a un orateur russe, là-bas, il y a des francophones, là-bas, il y a les anglophones. Donc, on voit, on trouve un moment pour se réunir. On ne pourrait pas le faire soi-même, dans notre petit groupe, seul. On a besoin des autres pour exister collectivement. Parmi les autres mobilisations communes qui nous permettent de voir la convergence des pratiques, il y a cette fameuse grève des ouvriers et des ouvrières de la confection en 1912. Pourquoi elle est importante? Parce qu'en fait, depuis 5-6 ans, il y a tout un travail de fourmi qui se fait dans les manufactures de vêtements de Montréal pour créer des premiers syndicats dans cette industrie-là. Et c'est souvent ceux et celles qui avaient une expérience politique antérieure qui ont amené cette expérience-là à Montréal, souvent des ouvriers et ouvrières de la communauté juive, qui vont être à l'origine de ces embryons-là de syndicats. Et on va se donner les moyens de frapper un grand coup en organisant probablement à l'époque l'une des plus importantes grèves que Montréal a vues. Les grosses grèves à Montréal, c'était 1000, 1200, 2000 personnes. C'était dans les tramways, dans le port, dans les métiers de la construction. Donc vraiment des lieux où le syndicalisme est implanté depuis très longtemps. Par contre, dans l'industrie de la confection puis du vêtement, là, c'est une autre paire de manches. Les salaires sont très, très bas. Il y a beaucoup de roulements au niveau des employés. Il y a une surexploitation du travail féminin. C'est très, très difficile d'aller marquer des points. Et pourtant, c'est ce qui va arriver. Donc, 1912, comment s'organisent les grévistes ou futurs grévistes? Ils font venir un militant d'origine lituanienne qui est connu pour sa fougue, qui s'appelle Léon Chazanovitch, qui va avec d'autres créer un journal qui s'appelle Die Volkszeitung, donc le journal du peuple, publié en yiddish, parce que la majorité, finalement, de ceux qu'on souhaite qui vont constituer l'armature du syndicat, c'est la langue qu'ils parlent, c'est la langue qu'ils lisent. Donc, 9 semaines de grève quand même. Lors du déclenchement de la grève, une assemblée publique où il y a 2000 personnes, où Albert Saint-Martin, notre socialiste canadien-français, va prendre la parole, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrières canadiennes-françaises aussi dans les manufactures. Il y a des Italiens aussi qui sont là. Donc, 9 semaines de grève qui vont permettre de gagner sur toute la ligne face à des entrepreneurs qui sont eux-mêmes de la communauté juive, mais pas de la même région. Les entrepreneurs dans le secteur du vêtement à Montréal sont des juifs anglophones, qui sont arrivés souvent d'Angleterre, alors que ce prolétariat-là juif est nouvellement arrivé et vient d'Europe de l'Est. Donc on a comme ça un contact frontal et les ouvriers et ouvrières vont en sortir gagnants. Il n'y a pas que du matériel de propagande en yiddish, il y en a aussi, ici, j'ai trouvé récemment un tract en français et en anglais qui s'adresse spécifiquement aux ouvrières de la confection. C'est comme le témoignage, c'est sous la forme de témoignage d'une ouvrière qui parle à ses consœurs de travail. Donc, il y a finalement des mobilisations comme celle-là qui permettent de créer des liens entre les différents groupes. Il y a des enjeux qui sont communs. Bon, il y a la question ouvrière, évidemment, qui est centrale à cette époque-là, mais il y a aussi la question de la liberté de conscience, voire de l'anticléricalisme, voire de l'athéisme. C'est un enjeu très, très important avant la Première Guerre mondiale. La question de l'éducation de la religion, bon, chez les francophones, on comprend assez vite d'où ça vient. Hein, il y a quand même à l'époque, une mainmise du système d'éducation et aussi des consciences par le clergé catholique. qu'il y a quand même une censure qui s'exerce dans les bibliothèques, dans les librairies, face à même des œuvres qui aujourd'hui seraient considérées comme tout à fait Zola interdit, Émile Zola complètement interdit. Tous les écrivains, finalement, les romanciers français du 19e siècle, introuvables. Introuvables en librairie, en bibliothèque, mais quand même les œuvres circulent par d'autres réseaux. La censure n'est jamais complète, la censure n'est jamais totale. Il y a quand même des réseaux qui existent et même quelqu'un comme Victor Hugo, dont les œuvres sont interdites de vente, est quand même une référence importante pour tout ce milieu-là de libre-penseurs canadiens-français. Donc, on voit apparaître des nouvelles publications assez avant-gardistes pour l'époque. Il y en a une ici qui s'appelle La Lumière. On voit rapidement la référence. Bon, l'esprit des Lumières, la raison, la liberté. Une revue, donc, qui va sortir peut-être 7-8 numéros avant d'être frappée d'interdiction par le clergé. Avant de revenir à l'autre vignette, d'autres revues d'avant-garde organisées par les cercles de libre-penseurs à Montréal. L'aube des temps meilleurs. Hein? Pas mal. Deux numéros. Elle aussi, frappée d'interdiction. C'est un groupe d'étudiants. Tantôt, on parlait de l'Université de Montréal comme étant un repère de... Enfin, mais c'est quand même des jeunes étudiants qui vont décider de prendre fait et cause pour la classe ouvrière et qui vont publier comme ça à l'intérieur de leur petit journal. C'est un bon petit journal. Là. C'est pas petit comme dans un petit journal insignifiant, mais vraiment un vrai bon petit journal. C'est juste une joke que je fais à Nicolas ici devant moi. J'arrête tout de suite. Dans lequel on trouve un texte assez étonnant. Un des premiers textes où quelqu'un, bon, il signe le pseudonyme, mais se déclare comme étant anarchiste dans une société qui n'est pas tout à fait prête à recevoir ces idées-là. Mais il dit, je suis anarchiste, je viens de lire un petit livre, puis fascinant, l'anarchie n'est pas ce qu'on nous enseigne. Puis en fait, on voit les références que les gens ont. Tout à l'heure, on a commencé en parlant avec notre monsieur Portelance, vous savez, cet ouvrier là, qui parlait de pourquoi il est socialiste, et qui termine en disant « je suis catholique pratiquant ». Ben, l'étudiant en question qui se proclame anarchiste dit « ben en fait, je suis anarchiste comme Jésus-Christ, hein. Jésus-Christ aussi était comme anarchiste, donc je ne vois pas pourquoi vous trouvez que l'anarchisme c'est mauvais ». Donc il y a comme une espèce de confusion des fois entre des genres qui existent, mais quand même. C'est une publication assez intéressante dans laquelle collabore brièvement Albert Saint-Martin. Alors que ce titre-là est vraiment cool, genre, celui-là, le pourquoi pas, moins intéressant. Okay. Mais, dans le pourquoi pas, qui est un petit bulletin de 4 pages fait à la dactylo, collabore, et il est sorti en fait par. Il n'y a aucun article qui est signé, mais c'est un anarchiste canadien-français qui s'appelle Arthur Maillard qui le produit. Maillard est un type assez intéressant. J'ai parlé tantôt des réseaux que les anarchistes juifs pouvaient avoir à travers l'Amérique du Nord, via des publications. Maillard, lui, il collabore avec l'un des plus importants journaux anarchistes français de l'époque, qui s'appelle Les Temps Nouveaux. Il signe sous un pseudonyme dans ce journal-là. Mais Maillard va comme ça écrire plusieurs dizaines de textes dans Les Temps Nouveaux, où il décrit ce qui se passe à Montréal. Et il décrit aussi pourquoi il lance ce journal-là. Il lance ce journal-là avec d'autres parce que, justement, les unes après les autres, les publications sont interdites. Alors, il veut tester quand même la possibilité de le sortir un peu plus longtemps. Et c'est assez soft dans le ton. C'est pas un journal anarchiste, mais on s'attaque clairement au dogmatisme religieux, à l'omniprésence du clergé dans la vie. On vend des cartes postales anticléricales de cette publication ici qui s'appelle La Calotte. Je ne sais pas si vous voyez l'image là, un peu scatologique, là. Mais en gros, on voit un prêtre qui défecte sur la terre entière. La Calotte est distribuée à Montréal dans les réseaux de libre-penseurs, plusieurs centaines d'exemplaires par semaine. Donc, Maillard collabore à ça, mais il y a aussi du drôle de monde au Québec qui collabore à La Calotte, comme un industriel de Shawinigan, d'origine belge. Maillard est aidé aussi dans ses aventures par un Français qui s'appelle, je pense que c'est Robert, R. de Marmande, c'est un pseudonyme, qui lui-même est un anarchiste français qui a vécu à Montréal au début du 20e siècle, Marmande va écrire un très très bon livre qui s'appelle « Le cléricalisme au Canada », qui est une des meilleures analyses de l'époque de l'empreinte religieuse au Canada français. Marmande, Maillard et plein d'autres qui collaborent à ces publications-là sont partis de certains groupes francs-maçons montréalais. Aujourd'hui, on pense aux francs-maçons comme un truc de complot, mais à l'époque, bon, c'était en fait un regroupement d'hommes, parce que les femmes n'étaient pas admises dans la franc-maçonnerie, qui, en fait, discutaient de grandes questions philosophiques dans la plupart des cas, ou de questions philosophiques tout court, et qui, en fait, cherchaient des moyens d'éveiller les consciences, de remettre en question des dogmes, à travers des publications, oui, mais à travers aussi des conférences publiques d'un groupe qui s'appelait le groupe Alpha Omega, qui se réunissait régulièrement dans différentes salles du centre-ville qu'on a évoquées tantôt. D'ailleurs, une de ces salles-là, qu'on voit ici reproduite dans le journal La Presse, donc ça c'est sur, dans ce cas-ci, la salle où se réunissent les membres de la loge d'émancipation sur la rue Sainte-Catherine. Évidemment, le clergé catholique est fou de rage quand il apprend que des groupes de francs-maçons à Montréal s'organisent, organisent des conférences, sortent des publications. Et pour savoir qui fait partie de ces groupes-là, on envoie comme ça des jeunes, encore une fois, des jeunes étudiants, pour aller attaquer physiquement l'un des secrétaires de la loge d'émancipation pour lui voler la liste de membres du groupe. Alors, ça peut paraître ridicule comme ça, mais dans les semaines qui vont suivre, il y a une brochure qui sort où on dit qui fait partie de quel groupe. Et là, tout le monde est obligé de se justifier sur la place publique. « Ah, j'en ai fait partie, mais c'est du passé, j'ai démissionné. » Vous voyez un peu? Donc, les gens, en fait, sont souvent des jeunes, des membres de la petite bourgeoisie canadienne-française font partie de ces loges-là. Les ouvriers canadiens-français sont plutôt loin, en général, des groupes francs-maçons. C'est pas leur milieu, c'est pas leur gang. Maillard était une exception à ça. Une autre exception, c'est un anarchiste d'origine allemande qui est établi à Montréal. À Montréal, il est orthopédiste, mais bon, à l'origine, c'est un militant anarchiste, qui s'appelle Rickens. Alors, Rickens et un autre de ses comparses d'un groupe franc-maçon vont comme ça être accusés, à tort, de vouloir fomenter un attentat à la bombe à l'hôtel de ville de Montréal. Donc, il y a tout un climat de suspicion, il y a tout un climat d'enquête à l'époque. On cherche à savoir qui fait quoi à Montréal du côté des milieux catholiques, puis on n'hésite pas à faire, en fait, la diffamation pour les coincer. Mais cette question-là, quand je dis un enjeu commun, c'est un enjeu commun aussi du côté de la communauté juive. Parce que là aussi, il y a quand même des sentiments religieux qui sont très imprégnés. Et chez les anarchistes, chez les socialistes juifs, on va créer comme ça, par exemple, des écoles du dimanche rationnel, pour finalement soustraire les enfants à l'éducation religieuse. On va organiser des bals masqués le jour des fêtes religieuses, qui vont créer des affrontements entre, finalement, des fidèles qui vont vers la synagogue, puis d'autres qui veulent aller au bal masqué. On se réunit, par exemple, les vendredis soirs, le soir du sabbat, où, en principe, l'activité, pour ceux qui sont pratiquants, se limite à, finalement, rester chez soi. Non, les réunions publiques sont organisées le soir du shabbat, et on va manger aussi des fèves au lard comme rite d'initiation avec nos comparses. Donc, c'est autant de petits gestes, de petits symboles, mais qui, quand même, on voit très bien là, la multiplicité de ces gestes-là sont importants. La question de l'éducation revient beaucoup dans ces publications-là, la question d'attaquer frontalement la religion aussi, mais ça ne fait pas l'unanimité. Tout à l'heure, on voyait Ulrich Cotton là, avec notre Cotton's Weekly. Lui, ça l'écœure un petit peu de voir qu'on accorde autant d'importance à la question de la religion, lui-même étant chrétien. Il voit mal pourquoi il faut constamment revenir sur ces enjeux-là. Il trouve que c'est contre-productif et que ça aliène des gens qu'on pourrait peut-être rejoindre autrement. Donc, ça ne fait pas nécessairement l'unanimité. Au niveau des tactiques communes, ben, évidemment, on est dans une société où l'instruction est l'affaire de la minorité. Alors, comment on diffuse nos idées?
On parle.
C'est une culture ouvrière qui repose beaucoup sur la parole, sur les conférences. Alors, il y a tout un circuit de conférences dans des salles du centre-ville. Alors, tous les soirs, ou presque, pour peu qu'on parle quelques langues, là, on peut comme ça attraper une conférence, une assemblée contradictoire, des débats sur différents sujets. Donc, ça, c'est propre à tous les groupes politiques qui s'organisent. Qu'on soit socialiste de différentes écoles ou anarchiste, ça ne fait aucune différence. Il y a quand même des conférencières et conférenciers assez connus qui viennent à Montréal avant la Première Guerre mondiale. Daniel De Leon, qui est un marxiste d'origine, il vient des Caraïbes en tout cas, qui est un des membres les plus importants du Socialist Labour Party, puis un grand intellectuel marxiste pour l'époque, qui vient dès 1895. Il y a des syndicalistes français, mais qui vivent aux États-Unis, qui publient des journaux là-bas, qui sont diffusés au Québec, qui viennent aussi, comme Louis Goaziou. Il y a des représentants du grand syndicat français, la CGT, qui viennent à Montréal en 1904. Des conférenciers anarchistes qui arrivent dès 1905 en provenance de New York. Un conférencier italien très connu, Carlo Tresca, qui vient à Montréal en 1906. Emma Goldman, évidemment, une militante anarchiste archi connue à l'époque et encore aujourd'hui, pour de bonnes raisons à mon avis, qui vient à Montréal en 1906, deux semaines après la première manifestation du 1er mai. Alors, ça aussi, ça fait capoter les cathos. Et deux ans plus tard, en 1908, elle revient encore pour faire des conférences en anglais, en allemand et en yiddish à Montréal. On a un des militants les plus connus de l'IWW, William D. Haywood, qui vient à Montréal en 1909, et plusieurs autres. On peut en rajouter comme ça jusqu'à la Première Guerre mondiale. Montréal vraiment devient, sans dire une plaque tournante, devient un des lieux importants où, fréquenté par ces conférenciers et ces conférencières qui parcourent l'Amérique du Nord pour s'adresser à différents auditoires, pour faire de la propagande, pour organiser des débats contradictoires. Les groupes canadiens-français, eux, organisent des conférences, par exemple le Parti socialiste du Canada, tous les dimanches au terme du travail. Alors, beau temps, mauvais temps, qu'on soit le 1er janvier, le 24 décembre, ça ne change strictement rien, on se retrouve à 2 heures au terme du travail. Le Cercle Alpha Omega aussi en organise beaucoup. Et on publicise ces conférences-là dans des quelques petits journaux libéraux qu'on retrouve à Montréal et qui sont bien diffusés. Donc, vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce que je faisais ce matin? J'ai épluché mes notes, j'ai retrouvé une trentaine de conférences organisées par le Parti socialiste du Canada et le Cercle Alpha Omega sur différents sujets. C'est souvent les mêmes conférenciers qui reviennent. Des fois, on dit, pour attirer le monde, ça va être un sujet très intéressant parce que je pense qu'on n'a pas alors l'idée de, tu sais, quand on organise une conférence toutes les semaines, à un moment donné, on épuise les sujets. Mais quand même, il y a une habitude qui se prend et des membres du Parti socialiste du Canada, même si le groupe change de nom après la Première Guerre mondiale, vont garder cette habitude-là d'organiser une fois, deux fois, trois fois par semaine des conférences auxquelles vont venir d'abord quelques dizaines de personnes, mais plus tard plusieurs centaines de personnes, jusqu'à 500 000 personnes dans ces conférences-là. Maintenant, on a beaucoup parlé des messieurs. Avant de parler, je voulais juste revenir sur quelque chose. Il y a une autre pratique commune, tactique commune, appelons-la comme on veut, qui rejoint les gens des différents groupes socialistes ou anarchistes. C'est un goût prononcé pour la préfiguration. Qu'est-ce que je veux dire quand je vous parle de ça? L'idée qu'on peut construire maintenant des institutions, des collectifs, des initiatives où on met en pratique maintenant ce qu'on souhaite voir s'appliquer dans la société à laquelle on aspire. Et de quelle forme ça peut prendre? Souvent la forme de coopératives. Des coopératives d'alimentation, des restaurants coopératifs, une manufacture de cigares coopérative à l'occasion d'une grève dans cette industrie-là au début du 20e siècle. Des fermes collectives aussi. Un goût aussi pour partager l'espéranto, une langue internationale qui, on l'espère, va pouvoir créer comme ça. On voit les gens parlent plein de langues différentes, mais de faire une langue commune. Même chose chez les Juifs, même chose chez les francophones, chez les anglophones. Vous saviez, moi je l'ai appris tout dernièrement, que la première caisse populaire à Montréal a comme ça été fondée, bon, pas par des anarchistes, là, mais par des syndicalistes quand même, qui étaient membres du Parti ouvrier à Montréal. Et pour la petite histoire, ils ne voyaient pas la caisse populaire comme simplement un lieu où on allait poser nos épargnes, mais comme un levier économique qui allait pouvoir permettre d'ouvrir des magasins coopératifs. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs, en le cachant à Alphonse Desjardins, qui lui trouvait que c'était une très mauvaise idée de mélanger la consommation et le crédit. Il trouvait le crédit plus sûr, je pense, que le reste. OK. Alors, je saute un peu. Chez les femmes, avant la Première Guerre mondiale, on sait qu'elles sont présentes dans tous les groupes. Mais si je vous disais que on les voit rarement dans les comptes rendus de manifestation, qu'on les voit à peu près jamais comme conférencière, est-ce que ça vous surprend? Pas vraiment. Ça, ça va venir après la Première Guerre mondiale. Mais avant la Première Guerre mondiale, il y a quand même quelques-unes d'entre elles dont la présence est remarquée. La plus connue, même si elle n'est pas socialiste ni anarchiste, c'est sans doute Eva Circé, qui est mariée avec un médecin qui s'appelait Salomon Côté. Eva Circé, qui est la première bibliothécaire de la première bibliothèque publique à Montréal en français, francophone, je voudrais dire, va écrire sous différents pseudonymes dans plusieurs des journaux qu'on a vus un peu plus tôt, dont le Pourquoi pas, où on voit un texte signé Colombine, eh bien c'est elle qui l'a signé. Eva Circé est très très proche des milieux de libre-penseurs, de la libre-pensée à Montréal, et elle va être sur la sellette lorsque, au moment d'enterrement de son mari, le corbillard va prendre le chemin de l'incinérateur plutôt que celui du cimetière. Ce qui va créer un tollé, en fait, parce qu'on pensait bien qu'à la fin, son mari allait se convertir à nouveau à la religion catholique, mais elle décide de tenir tête à tout son entourage, à tous ceux qui lui disaient de... et finalement décider de respecter les derniers souhaits de son conjoint. Eva Circé, avant la Première Guerre mondiale, n'est pas nécessairement toujours... elle est proche des milieux francs-maçons, elle affiche des sympathies socialistes, elle a des opinions anticléricales, mais en fait, c'est plutôt après la Première Guerre mondiale, vraiment, que sa plume va être mise au service des luttes ouvrières. Elle va collaborer, même sous des pseudonymes masculins, à différents journaux publiés par les syndicats montréalais. On retrouve aussi des articles sur le féminisme dans certains journaux dont on parlait tout à l'heure, notamment dans l'autre des temps nouveaux, des temps meilleurs, je crois. Et aussi des conférences qui vont être organisées par le Cercle Alpha Omega, on sait qu'il est un groupe de francs-maçons. On sait qu'il y a une conférencière qui est invitée, mais jamais on ne voit où son nom n'apparaît malheureusement dans la liste. Il y a quand même un groupe important, je vais revenir sur d'autres exemples d'implication, mais chez les francophones, il y a quand même un groupe important qui se met en place, un nom un peu étrange, mais la Ligue des Dames pour l'instruction publique est obligatoire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est un groupe de femmes. Souvent, ça c'est un peu malheureux, mais ça témoigne aussi de l'époque, ce sont les femmes de militants socialistes qui portent d'ailleurs le nom de leur mari quand elles signent des textes ou qu'elles font des conférences. Donc c'est Madame Albert Saint-Martin, Madame Conrad Lacombe. Elles ont des prénoms, elles ont des noms de famille, mais c'est souvent du nom de leur mari qu'elles interviennent. Donc, qui va être créé en 1908 et qui va avoir une activité quand même jusqu'en 1912. La Ligue se présente comme un regroupement de femmes d'ouvriers qui vise, vous remarquez le terme, femmes d'ouvriers, qui vise entre autres à faire la promotion de l'instruction publique et obligatoire auprès des familles ouvrières, des villes et des campagnes, mais aussi qui s'intéresse au bien-être des enfants pauvres qui sont contraints au travail en usine. Elles vont notamment présenter un mémoire devant la Commission royale d'enquête sur l'instruction en 1910, mais ce qui est le plus intéressant à mes yeux, c'est dans ce petit texte-là qui présente leur manifeste. On insiste pour dire qu'elles vont faire du porte-à-porte dans les quartiers ouvriers de Montréal pour aller parler aux gens directement, aller transmettre leurs idées, parler directement aux femmes qu'elles vont croiser sur leur passage. Il y en a une d'entre elles qui s'appelle Alphonsine Drolet, qui va aussi prendre la parole lors d'une assemblée organisée pour souligner la mort de Francisco Ferrer, qui est un célèbre pédagogue espagnol, anarchiste, qui est assassiné en Espagne. Il y a plusieurs historiennes qui ont mentionné que les femmes sont présentes dans toutes les organisations de gauche, dans les syndicats aussi, même si elles composent souvent une fraction infime de main d'œuvre syndiquée. Dans certaines industries, elles sont parfois majoritaires. Mais chacun des articles, par exemple, qui mentionne les manifestations du 1er mai, indique une présence nombreuse, mais anonyme, des femmes dans les manifestations, mais aussi à toutes les étapes de mobilisation. Il y en a quelques-unes quand même dont le nom apparaît au hasard des articles qu'on peut consulter. Lily Zudik, en 1912, qui va ouvrir la marche, habillée toute de rouge, portant le drapeau qui ouvre la manifestation du 1er mai. Même chose en 1913, où Mademoiselle Schaeffer et Rosenstone, habillées de rouge encore une fois, vont ouvrir la marche avec le drapeau. En 1915, on voit apparaître dans le défilé du 1er mai une bannière qui demandent l'obtention du suffrage féminin. Et on dit que c'était la plus remarquée et la plus nouvelle des inscriptions. Comme quoi, cette revendication-là avait pris un certain temps avant de se frayer un chemin dans les manifestations ouvrières. Et on prend soin d'ajouter « Bon nombre de femmes, l'air miséreux, suivaient le défilé. » Cette année-là. Mais pour vous donner un peu quel regard les hommes anarchistes ou socialistes portaient sur ces revendications-là, comme le suffrage féminin, qui est alors interdit, qui n'est pas obtenu encore. Notre Arthur Maillard, dont je vous parlais tout à l'heure, grand libre-penseur, hein? Bon, je vais vous lire ce qu'il disait là-dessus. Notre ville a eu dernièrement la visite de Mme Pankhurst. Alors, qui est Mme Pankhurst? C'est elle, Sylvia Pankhurst, qui va devenir une militante communiste après la Révolution russe, mais qui est alors la figure de proue du mouvement des suffragettes anglaises. Donc, Mme Pankhurst vient à Montréal, présidente des suffragettes anglaises, elle avait traversé l'Atlantique pour venir dire aux Montréalaises que devenir suffragette, c'était sortir de l'esclavage. Nous ne nions pas le courage de cette dame, mais nous différons avec elle quant aux moyens. Vouloir voter, aller au Parlement, quand ce milieu est pourri et son atmosphère si dangereusement empoisonnée, allons donc. Brave Canadienne, aidez-nous plutôt à renverser l'idole du parlementarisme, siège de tant de maux. Madame Pankhurst a cependant dit une vérité en affirmant que la Canadienne est de 50 ans en arrière. Ce qu'il nous faut à nos femmes, ce ne sont pas des bulletins de vote, mais des livres, et encore des livres, des bibliothèques. Qu'elle fasse table rase de tous ses préjugés religieux, et la femme sera vraiment femme. Donc, c'est vraiment, au niveau de la pensée anarchiste de l'époque, on ne voit pas encore que l'obtention de droits égaux, même si les anarchistes sont abstentionnistes hier comme aujourd'hui, on ne voit pas que l'obtention de droits égaux fasse partie, finalement, d'un programme politique consistant. En tout cas, pas chez notre ami Maillard. Dans la communauté juive, on voit des groupes non mixtes qui apparaissent aussi déjà à l'époque. Par exemple, une section féminine au sein de l'Arbeiterring, qui est en fait un groupe d'entraide, mais aussi de solidarité ouvrière. Dans le syndicalisme, quand même, 60% des ouvrières du textile à Montréal sont des femmes. En mai 1914, une femme qui s'appelle Anna Schultz, qu'on présente comme étant la nièce d'Emma Goldman, va prendre la parole devant 1500 chômeurs au Champ de Mars. Donc, il y a quand même un leadership féminin dans, ou en tout cas, des militantes socialistes et anarchistes qui commencent, vers la fin de la période, à trouver une place dans ces milieux-là, mais ce n'est pas acquis. C'est vraiment après la Première Guerre mondiale qu'on voit apparaître dans tous les groupes des secrétaires, des responsables, la manifestation du 1er mai organisée par une femme, etc., etc. On voit comme ça un nouveau leadership, une nouvelle génération de militantes. Mais la guerre a été très importante aussi, à cause, entre autres, du travail des femmes. Les femmes ont beaucoup travaillé, ont obtenu aussi beaucoup de nouveaux droits à travers le conflit. On cherchait à avoir leur vote, notamment. Donc, il y a quand même un réveil de cette conscience-là, mais aussi, on fait sa place dans les milieux. Mais avant la Première Guerre mondiale, c'est pas évident. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de Montréal? Ce qu'on remarque d'abord, c'est que le courant travailliste, donc le plus réformiste, est présent dans plusieurs autres villes. À Québec, Saint-Hyacinthe, à Buckingham, à Chambly. On voit comme ça des clubs du Parti ouvrier se créer dans la plupart des centres industriels dans les différentes villes du Québec. Donc c'est là que se retrouve, en fait, ça devient le pôle de rassemblement des militants les plus progressistes dans chacune des villes. Des journaux comme l'Union des travailleurs, qui est faite aux États-Unis, la Calotte, le Cotton's Weekly, vont être diffusés dans différentes villes du Québec. Tantôt, par exemple, l'Union des travailleurs, on a un diffuseur à Québec qui, en 1904, arrive à en distribuer une soixantaine. C'est le journal produit par le Parti socialiste aux États-Unis, la section francophone du Parti socialiste aux États-Unis. Le Cotton's Weekly, 200 exemplaires à l'extérieur de Montréal, surtout dans les cantons de l'Est, dans les régions où il y a des ouvriers anglophones, mais ça fait son chemin jusqu'à Québec, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a quand même un petit lectorat. Dans les cantons de l'Est, encore une fois, à Cowansville, on trouve une section locale du Parti social-démocrate. C'est Ulrich Cotton et 3-4 de ses chums qui ont décidé de se faire un groupe politique. Assemblée du Parti socialiste du Canada, on en retrouve dans les cantons de l'Est, mais aussi dans les Laurentides, dans la région de Sainte-Agathe, là où on trouve aussi une ferme collective qui s'appelle La Canado, en espéranto, donc qui a été fondée par des militants anarchistes et socialistes montréalais qui ont décidé de développer une coopérative agricole dans cette région-là à partir de 1906 et qui va malheureusement se terminer un peu mal comme expérience pendant la Première Guerre mondiale, mais quand même pendant presque 10 ans, cette ferme-là a eu, finalement des terres et ils ont fait de l'activité. Je ne sais pas quel type de culture ils faisaient par contre, mais bref, c'est une des premières expériences coopératives d'ailleurs menées par les socialistes qui a eu un certain succès. En Nouvelle-Angleterre, on le sait, il y a eu une immigration massive des Canadiens français en Nouvelle-Angleterre. Ben, dans tout, c'est ce qu'on appelle les Petits Canada, donc ces quartiers où habitent les Canadiens français. Ils sont plus réceptifs qu'on peut le penser aux idées socialistes, voire anarchistes, mais surtout socialistes, parce qu'ils sont confrontés aussi à des conditions de travail très, très, très dures et ils voient leurs camarades s'organiser dans les syndicats, mais aussi dans les partis. Donc, l'influence du clergé est un peu moins forte qu'au Québec. Finalement, on retrouve aussi des socialistes et des anarchistes de langue française ailleurs au Canada. En Nouvelle-Écosse, par exemple, des mineurs d'origine belge vont mener des grèves très importantes. Mais on en trouve aussi au Manitoba. J'ai été très surpris de trouver une trace d'un militant anarchiste de langue française dans un petit village du Manitoba qui adhère à une nouvelle internationale anarchiste avant la Première Guerre mondiale. On dit, mais comment l'appel a pu aller jusque dans ce petit village-là, mais dans le petit village en question, il y a beaucoup d'immigrants français et belges aussi. Ceci explique peut-être cela. Bon, est-ce qu'on a une culture politique commune à votre avis? Est-ce qu'on peut trouver des points de convergence, des symboles, des pratiques qui quand même sont... Je vous lance la question, on pourra revenir tout à l'heure. Moi, je pense que oui, personnellement. Je pense qu'on a une culture politique qui est commune, qui se reflète par un net goût pour la parole, les conférences, la propagande, les manifestations du 1er mai, des idées qui sont plus convergentes qu'on peut le penser. Je n'ai pas beaucoup parlé d'une histoire idéologique, mais plutôt j'ai ramené ça plutôt aux pratiques, si c'est voulu. J'ai voulu ramener ça à l'activité des gens, plutôt qu'à aux grandes théories qu'ils pouvaient proclamer. Je pense que c'est là que la convergence de la culture politique peut se manifester, davantage que par une référence à un philosophe français, russe ou anglais. Mais il y avait, au-delà de cette culture politique-là, on ne peut pas nier qu'il y avait des désaccords. Je dirais même qu'il y avait même des trolls à l'époque. Alors, vous ne le voyez peut-être pas bien, mais ici on a la figure d'Albert Saint-Martin. Je ne sais pas pourquoi ils ont conservé ça, mais c'est très intéressant. Imaginez-vous qu'à l'Institut international d'histoire sociale à Amsterdam, où j'ai eu la chance d'aller, on a conservé dans les archives cette espèce de message d'un troll. Alors, ce qu'on peut lire, c'est
bourgeois catholique.
Le policeman Albert Saint-Martin, bourgeois, riche, capitaliste, grand propriétaire, socialiste libéral, conservateur, nationaliste, catholique, protestant, athée, grand pontife, despote, fakir, charlatan, exploiteur, espérantiste, etc. Alors, ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui a pris la peine d'écrire à un correspondant. Moi, je suis pas de savoir c'est qui le troll en question. Bref, il a envoyé comme ça une lettre à un journal anarchiste en Angleterre pour salir la réputation d'un de ses compagnons à Montréal. Il a quand même pris la peine de le faire. C'est pas signé, mais je pense que c'est Elzéar Boulay. Voilà. Donc, culture politique commune, oui, mais bon, ça c'est limité.
Des petites chicanes.
Ah oui, si vous voulez rentrer dans les potins de la scène anarchiste et socialiste, on pourra le faire, mais d'abord, on va prendre une bière avec Stéphane qui va être là pour nous servir. Merci de votre attention, puis on se retrouve après la pause.
Matt, Mathieu.